VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, Abdourahmane Dia, la présentation de cette édition de 17h30, temps universel. On est vendredi 7 juillet 2017, au sommaire. Le bilan des affrontements entre deux groupes armés signataires des accords de paix au Mali est maintenant de 15 morts. Le président équato-guinéen veut porter plainte contre Transparency dans l'affaire dite des biens mal acquis. L'armée égyptienne perd plusieurs de ses éléments dans une série d'attaques dans le Sinaï. Au Togo, la semaine de la purification bat son plein. Ne ratez pas le reportage de notre correspondante à Lomé.
Des prières et des invocations, des supplications pour purifier le pays, pour convier les âmes errantes à s'apaiser, pour apaiser les cœurs maîtres.
Reportage dans la partie magazine de cette édition. Sommet du G20 à Hambourg en Allemagne avec comme point d'orgue la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Et ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. Au Mali, le bilan des affrontements entre la CMA et la plateforme s'est alourdi, faisant 15 morts et des blessés graves. Les combats ont commencé par l'attaque d'un convoi de la plateforme qui était en patrouille dans les alentours de Kidal. La MINUSMA parle d'une violation du cessez-le-feu, Kassim Traoré.
Les combattants de la plateforme stationnés à la porte de Kidal voulaient signer leur retour dans la capitale de l'Adra des Ifugas, Sidi Ag Albaka.
Il y a une semaine de cela, la plateforme était à 20 km de Kidal. Puis cette tension, la MINUSMA et Berkane sont venus rencontrer les chefs militaires de la plateforme. Et au bout des discussions, un consensus a été trouvé de sursoir à une éventuelle attaque sur Kidal jusqu'au 20 juillet, date qui devrait être marquée par l'installation du MOC à Kidal. Malheureusement, la plateforme a respecté son engagement à la quitter, les alentours de la ville. Et en même temps, la CMA a commencé à faire sortir ses troupes de Kidal devant les yeux de la communauté internationale qui lui a pas empêché de sortir.
Comme il fallait s'y attendre, les deux groupes se sont affrontés pendant 4 heures avec une heure de repos. Le bilan est de 15 morts, des véhicules brûlés, d'autres récupérés par la plateforme.
Du côté de la plateforme, on déplore la mort de 3 jeunes, 2 véhicules calcinés, 4 blessés. Du côté de la CMA, je peux signaler 4 véhicules récupérés, 2 véhicules calcinés, 12 morts. Les blessés, honnêtement, je n'ai pas le nombre.
C'était un reportage de Kassim Traoré à Bamako. Au Burkina Faso, suite à la déclaration du Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU relative à la détention de Djibril Bassolé, ex-ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Justice René Bagoro a animé ce matin une conférence de presse pour apporter la réponse du gouvernement. Le point avec notre correspondant sur place, Zoumana Wanogo. Zoumana, bonsoir. Zoumana est en ligne. Zoumana? Voilà, nous allons essayer de le retrouver plus tard dans cette édition. 67 migrants ouest-africains ont été secourus dans le désert nigérien après avoir été abandonnés par des passeurs. Un des migrants est finalement mort peu après l'opération de sauvetage. Les rescapés avaient quitté il y a plusieurs jours la ville d'Agadez à bord de 3 véhicules avant d'être abandonnés sans provision par les passeurs. Au Sénégal, l'Assemblée nationale a adopté la réforme du code électoral pour éviter des lenteurs dans le vote en raison d'une pléthore de listes législatives du 30 juillet. La majorité de l'opposition dénonce cette modification qui intervient à moins d'un mois des législatives avec la participation de 47 listes de partis ou coalitions de partis politiques. Avec cette modification, les électeurs peuvent choisir 5 listes sur les 47 avant d'aller dans l'isoloir, ce qui, selon les opposants, viole le secret du vote. Transparency International, dans le viseur des présidents de la Guinée équatoriale, du Gabon et du Congo, Teodoro Obiang a annoncé une plainte commune contre cette ONG dans l'affaire des biens mal acquis. Les explications d'Eric Manirakiza.
Le président de Guinée équatoriale a déclaré que l'achat de biens en Europe n'est pas interdit par une quelconque disposition nationale ou internationale. Théodore Obiang a aussi précisé qu'un pays tiers ne peut non plus déclarer illégaux des biens en provenance d'un autre pays. Son fils et vice-président, Théodorine Obiang, est jugé à Paris. Mercredi, le parquet a requis 3 ans de prison, 30 millions d'euros d'amende et la confiscation des biens saisis dépassant 100 millions d'euros. La défense a dénoncé une mascarade. Le verdict est attendu le 27 octobre. Considérant que la justice française fait de l'ingérence dans les affaires d'un État souverain, Théodore Obiang a dit qu'il va concerter les présidents gabonais Ali Bongo et congolais Denis Sassou Nguesso, également visés dans la même affaire, pour porter plainte contre l'ONG Transparency International qui s'est constituée partie civile à ce procès.
L'un des principaux partis d'opposition de Madagascar a maintenu son appel à manifester demain dans la capitale Antananarivo. Malgré l'interdiction de la police, l'armée est déployée autour du stade où l'opposition a prévu de se réunir. Le TIM, parti de l'ex-président Marc Ravalomanane, a dénoncé une provocation du gouvernement. Au moins 26 soldats égyptiens ont été tués ou blessés dans une vague d'attaques, dont des attentats à la voiture piégée contre plusieurs points de contrôle dans le nord du Sinaï, une région où sévit le groupe État islamique. Le point avec Ekia Badou.
L'Égypte est à nouveau frappée par des attaques terroristes avec des attentats à la voiture piégée. L'armée a répondu en abattant une quarantaine d'assaillants. Les événements se sont déroulés au sud de la localité de Rafah, proche de la frontière avec la bande de Gaza. L'Égypte se relève à peine de la double attaque d'avril visant des chrétiens. Depuis, le président Abdel Fattah al-Sissi a instauré l'état d'urgence pour 3 mois et a accusé les djihadistes de vouloir semer la division en s'en prenant en minorité comme les Coptes, qui représentent 10% de la population. Depuis le renversement en 2013 du président Mohamed Morsi, issu des frères musulmans, des islamistes extrémistes, notamment province du Sinaï, qui a prêté allégeance au groupe islamique, ont multiplié les attentats contre les militaires et policiers en tuant des centaines dans la péninsule du Sinaï.
Le Maroc a adopté 2 textes de loi visant à délimiter son espace maritime au large du Sahara occidental face aux îles Canaries et à imposer la tutelle du royaume sur ses eaux au statut toujours indéfini. Le porte-parole du gouvernement a indiqué que l'objectif était de cimenter la tutelle juridique du Maroc sur ses eaux et barrer la route à toutes les allégations remettant en cause ainsi la souveraineté du royaume sur cet espace. Le Polisario, soutenu par l'Algérie, réclame un référendum d'autodétermination, alors que Rabat, qui considère le Sahara occidental comme partie intégrante du Maroc, propose une autonomie sous sa souveraineté. Nous, on me dit qu'on a retrouvé notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Ouanogo. Non, apparemment pas. Nous allons essayer de le retrouver dans nos prochaines éditions. Voilà. Finalement, on me dit qu'il est là. Zoumana, bonsoir.
Oui, je suis là. Oui, bonsoir, Abdourahman.
Oui, on vous écoute. Qu'est-ce qui s'est passé à la conférence de presse du ministre de la Justice?
Justement, le gouvernement...
Malheureusement, on a vraiment des soucis avec Ouagadougou. On y reviendra dans nos prochaines éditions.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À Hambourg, en Allemagne, les affrontements entre policiers et manifestants hostiles au G20 ont perturbé le programme des dirigeants les plus puissants du monde. Donald Trump et Vladimir Poutine se sont rencontrés pendant plus de 2 heures de temps et le président russe s'est dit honoré de cette rencontre. Les explications de Salwa Jafari.
Les protestataires avaient promis l'enfer pendant le G20, voiture de police incendiée, 160 policiers blessés. Ils ont été nombreux à battre le pavé depuis jeudi. Au moins 45 d'entre eux ont été arrêtés. À l'intérieur de l'enceinte ultra sécurisée où se sont réunis les chefs d'État, l'ambiance est électrique avec en point d'angle le premier face-à-face entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Les deux hommes se sont bien entretenus. Pourtant, il y a moins de 24 heures à Varsovie, Donald Trump critiquait ouvertement le rôle déstabilisateur de la Russie. Outre ce temps fort, le G20 va débattre de sujets difficiles comme le climat et le commerce. la chancelière allemande Angela Merkel.
Nous connaissons tous les grands défis mondiaux et nous savons que le temps presse. C'est pourquoi nous ne pourrons trouver des solutions que si nous sommes prêts au compromis.
Les États-Unis ont déjà remis en cause les accords de Paris sur le climat. Ils agitent en outre des menaces de taxes contre la Chine sur l'acier et contre l'Allemagne dans le secteur automobile.
Un policier français a été inculpé pour association de malfaiteurs terroristes. Il est soupçonné d'avoir aidé son frère impliqué dans une filière djihadiste et d'être partisan du groupe État islamique. Le policier en poste dans la banlieue sud de Paris est également poursuivi pour escroquerie en lien avec une entreprise terroriste. Un traité interdisant les armes nucléaires a été adopté ce vendredi aux Nations Unies, mais les puissances nucléaires ont refusé de participer au processus, ce qui limite la portée de ce traité adopté par 22 voix pour, une contre les Pays-Bas et une abstention. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qualifie de délirante la décision de l'UNESCO de déclarer la ville de Hébron en Cisjordanie occupée comme zone protégée du patrimoine mondial. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique dans la Minute Éco, présentée ce soir par Dili Diko.
Dans le cadre du MCC, Millennium Challenge Corporation, le Congrès américain doit statuer sur un programme pour la Côte d'Ivoire d'environ 300 milliards de francs CFA. Ces financements porteront sur les domaines de l'éducation et du transport, deux domaines dans lesquels les investissements du MCC peuvent permettre de stimuler la croissance et le progrès économique en créant de nouvelles opportunités pour le peuple ivoirien. Le Sénégal poursuit la modernisation de son administration avec deux nouvelles procédures des services d'urbanisme. L'obtention du certificat de conformité, un document administratif attestant de la conformité des travaux réalisés, ainsi que le certificat d'urbanisme qui atteste qu'une opération immobilière est conforme à la législation et techniquement réalisable. Ces deux démarches sont désormais disponibles sur la plateforme Télé-Demande d'actes administratifs Télédac. Le site Passport Index vient d'établir un classement mondial des passeports en fonction de la facilité qu'ils offrent à voyager. Ainsi, le classement des passeports africains les plus favorables pour voyager indique que les Seychelles, l'île Maurice et l'Afrique du Sud font partie du top 3. Avec un passeport seychellois, il est possible de voyager librement dans 126 pays, dont 96 sans visa et 30 avec un visa à l'arrivée. Au bas de l'échelle, le passeport somalien, seule une trentaine de pays dans le monde accueillent les Somaliens sans visa préalable.
Et on passe au sport avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
La FIFA qui suspend la Fédération de football du Soudan.
Oui, cette suspension avec effet immédiat est une réaction de la FIFA à la mise à l'écart du président élu de la Fédération soudanaise de football, Moutassim Gafar Sir El Khatim, remplacé par Abdelrahman El Khatim le 2 juin suite à un décret ministériel. L'instance mondiale du football a alors considéré cela comme une ingérence politique dans les affaires du football. La suspension ne sera levée que lorsque le conseiller de la Fédération du Soudan et son président Moutassim Gafar Sir El Khatim seront réinstallés. Cette décision prive l'équipe nationale du Soudan de rencontres internationales ainsi que le club soudanais de toute compétition continentale. Al-Hilal, Hilal Obed et Al-Marek ne disputeront donc pas ce week-end la dernière journée de la phase de groupe des coupes interclubs de la CAF.
On connaîtra tous les qualifiés des quarts de la Ligue africaine des champions ce week-end.
Tout à fait, sont déjà quarts de finalistes Mamelodi Sundowns, Espérance de Tunis et Étoile du Sahel. Il ne reste plus donc que 5 places à prendre dans et la situation des clubs soudanais devrait faire le bonheur d'autres. Dans le groupe A, avec la disqualification de Al-Merrekh suite à la décision de la FIFA, c'est Ferroviaro qui accompagnera l'Étoile du Sahel en quart. Tout reste possible dans le groupe B avec les 4 clubs encore en lice à l'affiche ce dimanche, USM Alger, Cap United, Zamalek, Al Ahly de Tripoli.
Et on sait que Lionel Messi n'ira pas en prison.
Effectivement, la peine de 21 mois de prison pour fraude fiscale de l'attaquant vedette du FC Barcelone a été transformée en une amende de 252 000 euros.
Merci beaucoup, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Amnesty International a dénoncé dans un rapport les attaques répétées depuis 20 ans contre l'opposition, les médias et les défenseurs des droits de l'homme au Rwanda, créant, selon l'organisation, un climat de peur à l'approche de la présidentielle du 4 août. Solange Nyamulisa a joint Christian Roumont, chargé de campagne pour Amnesty International.
Ce qu'on a sorti aujourd'hui comme rapport, on a retracé les deux décennies du climat de répression au Rwanda, juste après le génocide. C'est juste pour situer les élections courantes, c'est-à-dire les climats de peur dans lesquels vont se passer les élections prochaines au Rwanda. C'est là dans un contexte où il y a eu des tactiques de répression qui ont été instaurées durant les deux derniers décennies et qui justifient le fait que présentement, il n'y a presque pas une opposition forte contre le président Kagame.
Mais vous vous basez sur quoi pour parler de la peur? Quels sont les éléments?
Les éléments, ce sont des cas qui ont été documentés dans ce rapport. Il y a une partie où nous retraçons un peu les cas passés depuis les années 90-2000, avec les cas des anciens présidents ou des anciens membres du gouvernement de transition, mais aussi des cas récents d'attaques contre des membres de l'opposition, notamment récemment l'année dernière avec la disparition de Jean Damascène du parti des forces démocratiques initiées FDI. Mais aussi la disparition jusque-là non expliquée de Madame Illuminée Iragena. Il y a aussi l'arrestation très récemment de Violette Ouamahoro. Donc tout cela, ce sont des cas qu'on a documentés, mais aussi la situation des médias et de la société civile qui est très, très répressive. On a vu l'année dernière comment les journalistes ont été arrêtés. Les élections qui vont se passer dans un climat qui n'est pas favorable, au fait, à la liberté d'expression et d'association pour que tous les Rwandais participent de manière ouverte à la discussion au débat sur les élections qui vont venir.
Ces opposants sont accusés quand même d'avoir tenu des propos génocidaires.
Les cas récents, il n'y a presque personne qui a été accusé de propos génocidaires, à part les cas il y a quelques années de Madame Victoire. Nous avons soulevé beaucoup de questions en ce qui concerne la loi qui a été à la base des charges contre Madame Victoire, parce que c'est une loi qui est très, très imprécise. Et donc, nous avons demandé qu'il y ait des réformes sérieuses sur cette loi pour qu'on précise exactement ce qui est tenu de génocide, parce que dans l'état actuel, ça n'en est pas. Et même cette précision-là doit se placer dans le cadre du droit international.
C'était Christian Roumont, chargé de campagne pour Amnesty International. Et par souci d'équilibre, nous avons cherché une réaction du gouvernement de Kigali, mais sans succès. Au Togo, la semaine du 3 au 9 juillet est dédiée aux cérémonies de purification du pays. C'est dans ce cadre qu'a eu lieu la grande cérémonie des religions traditionnelles à Lomé ce jeudi, plus précisément sur la berge de la lagune de la capitale. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
C'est sous une file pluie que les rites de purification se sont déroulés sur la berge de la lagune de Bay, un site choisi par les divinités pour son symbolisme, nous explique Sidali Zigui, prêtresse de la forêt sacrée de Bay. Cette lagune représente l'essence même de notre communauté. Donc c'est de bon ton que la cérémonie de purification se déroule sur la berge de ce cours d'eau. En plus, au début du processus de démocratisation du Togo, des dizaines de personnes ont été tuées et jetées dans la lagune. Nous avons repêché à l'époque 47 corps au total. Par cette cérémonie, nous avons apaisé leur âme afin qu'ils rejoignent le séjour des morts en paix. Nous avons purifié le pays, que ces actes ignobles ne se reproduisent plus. La semaine du 3 au 9 juillet a été retenue par le Haut Commissariat à la Réconciliation et au Renforcement de l'Unité Nationale Hachkoun pour diverses cérémonies religieuses, à savoir chrétiennes, musulmanes et traditionnelles, pour un seul et même but. Awanana Daboya, présidente du Hashkoun.
Des prières et des invocations, des supplications pour purifier le pays, pour convier les âmes errantes à s'apaiser, pour apaiser les cœurs maîtres, à tous regarder devant et à œuvrer pour le bien vivre ensemble.
Lors de la cérémonie traditionnelle, l'oracle Gouda Gagla Boloso est revenu sur les rivalités qui opposent les Togolais. Fogan Dénion, natif de Bé, délivre le message de l'oracle.
Gouda Gagla Boloso, l'oracle, dit que il y a toujours question de rivalité, le problème de qui est plus puissant que qui. Et l'oracle demande de faire des cérémonies pour apaiser les mauvais esprits. L'oracle dit qu'il y a eu des promesses non tenues. La promesse est faite où, à quel endroit, à quel niveau ils vont continuer à chercher pour conjurer ce mal.
Les garants des us et coutumes ont appelé les Togolais à plus de fraternité afin de garantir la non-répétition des violences qui ont émaillé l'histoire du pays. Togbui Asiobo Nyablondjo III, président de la Confédération des prêtres traditionnels du Togo.
Je ne pense pas qu'il y aura encore des tueries dans ce pays. Nous, nous allons faire les cérémonies traditionnelles comme les ancêtres nous ont demandé. Mais le reste à la population aussi, de ne pas se donner à des provocations.
On te donne des ordres, on ne te dit pas d'aller tirer sur les gens. On te dit d'aller faire un maintien d'ordre. On ne t'a pas dit d'aller tuer les gens.
Kailosan, Lomé, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Direction la Côte d'Ivoire, où le concours d'entrée dans la fonction publique serait entaché de fraude, une corruption dénoncée par les populations. Reportage à Abidjan de Georges Ibrahim Tunkara.
En Côte d'Ivoire, tout le monde en parle et est convaincu. Pour être admis à un concours d'accès à la fonction publique, il faut délier les cordons de la bourse, payer de l'argent pour espérer être sur la liste des élus. Augustin Siri est étudiant.
Par rapport à ma fiancée qui est entrée au concours CAFOP, j'étais obligé de pousser une somme de 400 000 francs CFA. Auparavant, à trois reprises, j'avais payé, elle avait échoué. Mais cette fois, l'année dernière, j'ai payé 400 000 francs encore et puis voilà, elle a été admise à son concours.
Autre témoignage, celui de Kwebi qui explique ici différents échecs.
Auparavant, j'ai présenté le concours de gendarmerie, ça n'a pas marché. Également le CAFOP, qui n'a pas marché. Mais je connais des personnes qui ont donné de l'argent et qui ont reçu le concours. Donc je suppose qu'en Côte d'Ivoire ici, les méritants n'ont pas le concours. C'est ceux qui ont l'argent qui ont le concours.
Donc vous pensez que si vous aviez donné de l'argent, vous seriez admis?
Il y a payé de l'argent, mais il y a aussi à qui payer de l'argent. Donc c'est un réseau qu'il faut vraiment trouver.
Après plusieurs échecs, Kwebi a décidé de ne plus mettre le couvert.
Bon, j'ai arrêté le concours parce que je pense que c'est inutile puisque je n'ai pas d'argent et puis je n'ai pas la bonne personne à qui il faut donner. Donc, mieux vaut ne pas me fatiguer avec le peu que j'ai.
Les témoignages sont nombreux et la pratique, dit-on, ne date pas d'aujourd'hui. Les concours les plus prisés sont ceux relatifs à l'école de la police, l'école de la gendarmerie ou encore le CAFOP, le centre d'animation et de formation pédagogique, l'école qui forme les enseignants et éducateurs du scolaire. Yeo Poruban est fonctionnaire. Après plusieurs tentatives infructueuses, il a fini par avoir gain de cause sans avoir, dit-il, déboursé le moindre centime.
Pour un concours de 50 à 20 places, on a des milliers de candidats. Pour 50 places, s'il y a des milliers de candidats, c'est dit qu'il y a des milliers aussi qui vont perdre. Et comme ça, on se dit que c'est par voie de corruption, il faut payer pour être admis.
À la direction des examens et concours, la DECO, on réfute l'existence d'une filière liée à la corruption. Cependant, certains de nos interlocuteurs admettent avoir eu vent de cette pratique. En attendant que les choses changent, Augustin Siri veut lancer ce cri de cœur.
Et c'est un cri de cœur pour nous, les pauvres, qui n'avons pas assez de moyens pour pouvoir payer le concours. C'est difficile pour nous. Arrivé à un certain âge, les parents ne s'occupent plus de vous. On nous avait dit que ça allait gâter des chances. Et aujourd'hui, nous n'en sommes pas là.
Alassane Ouattara avait promis une lutte sans merci contre ces pratiques. La réalité est tout autre, 6 ans après son avènement au pouvoir. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Le président américain Donald Trump a rencontré pour la première fois ce vendredi le patron du Kremlin, Vladimir Poutine, en face à face sous haute tension en marge d'un sommet du G20 déjà marqué par des affrontements entre police et manifestants. Pour en parler, John Lindon a joint sur place Luis Ramirez, il est l'envoyé spécial de VOA au G20.
La police d'Hambourg a tiré des canons à eau lors de manifestations, alors que les dirigeants des 20 économies les plus riches du monde ont ouvert les pourparlers. Le grand article d'ordre du jour de vendredi est le premier rendez-vous face à face du président Donald Trump avec le leader russe Vladimir Poutine. Une rencontre en marche qui a été très attentivement surveillée. Les leaders des États-Unis devraient aborder les problèmes de la Syrie, de l'Ukraine, de la Corée du Nord, et éventuellement des allégations d'ingérence russe lors des élections américaines. Les manifestants de gauche ont essayé de bloquer les États-Unis et des autres délégations d'entrer dans le lieu de le G20. Leur objectif est de perturber le sommet, d'empêcher l'accès. Ils voient le regroupement comme un rassemblement de l'élite riche du monde qui les reproche pour les disparités économiques mondiales. Leur objectif est en grande partie le président Trump, et beaucoup ont déclaré être indignés par sa décision de retirer des États-Unis de l'accord climatique de Paris.
L'un des grands sujets, vous l'avez dit tout à l'heure, c'était la rencontre entre le président Donald Trump et Vladimir Poutine. Comment est-ce que cette rencontre a été analysée là-bas par les médias?
On peut dire que c'était une rencontre très cordiale. Les deux leaders sont rencontrés avant un repas officiel. Ils ont tendu la main. Il y a eu des souris. Mais on ne sait pas ce qui se va passer dehors les portes fermées, parce que les sujets qu'on va toucher sont très sensibles.
Est-ce que au niveau des échanges de manière globale, l'Afrique a été évoquée à ce sommet?
Oui, bien sûr. Un grand sujet de discussion est aussi le pacte africain. C'est un projet proposé par la chancelière allemande Angela Merkel. C'est pour accroître la coopération avec le continent. Ça fait partie de sa politique de prendre, on peut dire, plus d'action. Maintenant qu'il y a la perception ici en Europe, parmi quelques leaders, que les États-Unis ont adopté une position d'isolation.
C'était Luis Ramirez, l'envoyé spécial de la VOA au sommet du G20 à Hambourg, en Allemagne.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme de la bonne musique comme d'habitude. Et notre sujet de cette semaine, mariage mixte. Rencontre des deux cultures, des avantages et des inconvénients selon vous. Envoyez-nous vos réactions par SMS ou contactez-moi sur ma page Facebook. C'est Roger Montou, la voix de l'Amérique. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001-202-619-31-40 ou envoyez un message au WhatsApp ou Viber au 001-703-350-3731. RM Show, c'est ce soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde de Georges Léonard Sagnon, à la console Justin Tweet et à la présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité en continu. Au revoir.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wenpanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.